me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
C'est le chemin qui est intéressant. La destination, c'est une chose, mais là où tu apprends le plus et là où tu prends un kiff total, c'est le chemin qui n'est pas forcément linéaire. Tu as des hauts, tu as des bas. Mais en fait, il faut, pour moi, apprécier le chemin dans lequel tu es, où tu es destiné à aller, quoi. Et pour revenir du coup à la question initiale, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres non, c'est que ils s'arrêtent avant. J'ai toujours cette image, je le dis souvent dans les podcasts ou autres, j'ai souvent cette image qu'on voit souvent là sur les médias sociaux où c'est le chercheur d'or ou le chercheur de diamant là où en fait il a TA en fait à une pioche de trouver la pépite.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode, je vous propose une nouvelle rubrique. Ce n'est pas un épisode solo, ce n'est ni une interview. Je suis avec Gary Babot, coach sportif et head trainer et on en a profité ensemble pour discuter de sujets très variés. On a parlé de procrastination, de succès, d'échec, du métier de head trainer, du rôle des femmes dans le métier de coach sportif et encore beaucoup d'autres choses. Je vous laisse découvrir cet épisode et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, on retrouve Gary Babot et en fait, c'est une toute nouvelle rubrique que j'avais envie de tester. On en parlait un petit peu en off avec Gary, c'est des choses qu'on a pu voir nous personnellement sur d'autres podcasts et je trouvais l'idée intéressante. Le concept à la base, c'était que je voulais qu'on soit à trois et je dis à Gary, on va tester déjà à deux et puis si ça vous plaît, si le format vous plaît, eh bien peut-être que voilà, on verra comment on s'organise pour refaire ce genre de concept. Le concept, il est simple. J'ai demandé à Gary qui prépare 10 questions. J'ai également des questions ou un mot ou voilà, quelque chose pour qu'on puisse justement débattre ou réfléchir, qui me donne aussi son point de vue sur certaines choses. J'ai aussi réfléchi moi à 10 questions. Et on va peut-être pas réussir à poser toutes ces 10 questions. On va peut-être prendre quelques questions. L'idée c'est que ça ne fasse pas non plus un podcast de 5 heures. Mais on va pouvoir échanger sur des sujets un petit peu différents. L'Into My Brain, c'est plus moi qui discute par rapport à une problématique. Les interviews, moi j'aime bien rentrer dans la tête des coachs ou des patrons de club ou des personnes qui sont un petit peu influentes dans le business. Et là, on est un peu plus à la cool. Gary me partageait que oui, c'est clair que ce serait mieux qu'on soit ensemble dans une pièce, dans un studio de podcast pour enregistrer. Peut-être que ça va se faire. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des studios de podcast éventuellement, qu'on puisse aller se balader aux quatre coins de la France. On ne sait pas. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Gary, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas vu ton épisode?
Ça marche. Je vais faire ça. La présentation s'impose. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Gary Babot, j'ai 29 ans, tout frais. Eh oui, c'était 5 mars. Donc, il est encore temps de me souhaiter, hein, si vous voulez. Donc voilà, j'ai 29 ans. Je suis personnel trainer, donc coach sportif indépendant depuis 2018. Voilà, donc en partenariat avec l'enseigne Orange que vous connaissez tous, pas d'équipe depuis 6 ans. Du coup, j'ai fêté aussi un autre anniversaire le mois dernier. Et je suis head trainer, donc coach en chef donc à Basefit. Donc en gros, mon job, c'est de recruter, former, d'accompagner d'autres coachs sportifs à gagner leur vie avec le coaching en faisant uniquement du coaching. Et je suis formateur depuis un an, du coup, avec l'école des coachs que j'ai montée avec mon associé Mathieu Riner. Vous avez peut-être déjà vu sur le podcast. En tout cas, j'espère, si c'est pas le cas, allez le voir parce que c'est quelqu'un de top. Et puis voilà, je crois que c'est pas trop mal, hein, comme présentation.
Parfait. Alors, sans plus tarder, on n'a pas fait Shifumi, mais comme tu es mon invité, c'est toi, tu me dis un chiffre entre 1 et 10.
Ouais, entre 1 et 10, c'est mieux parce que Shifumi, voilà, je préfère préciser, dans Shifumi, il n'y a pas de puits. Hein.
Non, il n'y a pas de puits, mais effectivement.
Bah, écoute, on dit, je vais te dire 5.
5. Eh bien. Le chiffre 5, j'ai noté la procrastination.
Ah,
ah, qu'est-ce que ça t'évoque, la procrastination, que ce soit pour toi, dans ton métier, la procrastination, je pensais forcément la procrastination liée au business.
Bah, la procrastination, ça peut paraître un peu un gros mot, hein, quand on voit l'étymologie du mot, mais c'est simplement le fait de mettre ce qu'on peut faire aujourd'hui au lendemain, hein. C'est important de définir quand même.
Ouais, ouais, tout à fait.
Dans le business, bah moi, je pense que comme beaucoup de coachs, hein, je suis atteint des fois, parfois, de procrastination, parce qu'en plus, j'ai tendance à faire des choses tout de suite qui m'apportent du plaisir immédiat. Donc, des fois, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de s'y mettre. Voilà, parce que quand on est coach sportif indépendant, on doit coacher, on doit communiquer, on doit faire des posts sur les réseaux sociaux, on doit faire des stories, on doit faire l'administratif, on doit faire la comptabilité. Il y a des choses, forcément, qui nous plaisent moins que d'autres. Donc, des fois, sous le tapis. Et aussi, bien sûr, on doit continuer de se former, de lire des livres, d'écouter des podcasts. Donc, des fois, il y a des choses qui sont quand même plus simples, qui me donnent du plaisir en moi, en tout cas, direct. Et des fois, malheureusement, c'est ce que je recherche, alors que des fois, il faudrait me mettre plus facilement sur des actions qui me permettront de faire le plus grand bénéfice, on va dire.
Bon, après, c'est aussi important. Alors, la gratification instantanée, c'est aussi important. Après, il faut avoir du cadre parce que là, ce que je trouve un peu chiant avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux ou les contenus un peu inspirationnels ou de développement personnel, c'est tu sais, il faut tout arrêter. Il faut toujours, tu sais, la routine du matin, il faut se réveiller à 5h30, il faut faire ça. En fait, t'as une vie très millimétrée. C'est un peu comme pour moi, suivre un régime, c'est possible un laps de temps très court, mais à un moment donné, la vie te rattrape. J'en parlais avec Sophie hier sur, c'est Brian Johnson, je sais plus le, tu sais, qui s'est mis en tête je crois qu'il a 40 ou 45 ans là, de tester en fait tout un tas de choses pour ne plus vieillir, en tout cas essayer de limiter la vieillesse et tout. Et on en parlait du coup avec Sophie parce que on trouvait en fait des moyens d'améliorer la santé, enfin notre propre santé déjà dans un premier temps et la santé de nos clients, c'est important pour nous. Mais pas à ce point-là, si tu veux. Tu vois, je disais que moi, je suis prêt à faire beaucoup de concessions, mais à vivre comme lui, il fait, ou entre guillemets, faut qu'il se couche à je ne sais plus quelle heure, faut qu'il se réveille à 5h30. Tout est réglé à la minute. Je suis pas prêt à ça non plus, quoi. Tu vois, je trouve qu'il faut aussi un juste milieu. Bien sûr, je pense que le mot procrastination par rapport à ça, c'était ne pas se laisser déborder par ça. Mais je sais pas, toi, ton regard un peu par rapport à ça.
Après, Brian Johnson, faut savoir que voilà, c'est un millionnaire américain du coup qui a plus besoin de travailler, donc il se focus à fond sur cette expérimentation-là. Hein. Il se sert aussi, je crois, des globules ou du sang de son fils plus jeune pour pouvoir essayer, il a l'air de réussir en tout cas. Et du coup, il s'est focalisé sur ça parce que du coup, il a plus besoin de travailler de toute sa vie. Hein. C'est ça, Brian Johnson. Moi, je trouve ça intéressant. Puis après, ça dépend d'où on vient. Hein. Quelqu'un qui sort de l'armée a l'habitude d'une certaine discipline. Et des fois, la discipline, ça rassure. Le fait de se lever toujours à 5h30 du matin, c'est rassurant. Le prendre la fameuse douche froide du matin, c'est rassurant. Et ça me met dans l'inconfort. Donc, en tant qu'être humain, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas si mal. J'ai fait une certaine période. J'aimerais pouvoir refaire ces genres de choses-là, petites choses-là. J'étais très discipliné pendant le Covid. Mais c'est aussi parce que bah, on pouvait pas sortir.
Non, mais oui, le faire sur des périodes spécifiques, mais le faire toute ta vie, tu vois, c'est sortir du cadre de temps en temps ou, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau alimentation, ouais. Bah, si tu as envie de passer un peu de temps ou faire une soirée avec tes potes, voilà, rien ne t'empêche de pouvoir sortir du cadre.
Ça paraît très difficile parce que, bah, aujourd'hui, la situation est telle qu'elle. Et bon, demain, quand on passe de célibataire en couple, bah, forcément, après, il faut trouver une femme ou un homme dans ce même délire-là. Ça paraît un peu compliqué quand même. oui. Donc, et après, il y a les enfants ou pas. Enfin, c'est très. Puis après, la vie sociale. Et l'homme est un être social. Donc, il a besoin d'être seul parfois, mais il a besoin aussi. C'est un besoin vital d'être en contact avec les autres. Donc, c'est très compliqué.
Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qu'il est en train de faire, je pense que ça pourra nous donner quelques notions intéressantes qu'on pourra aussi implémenter. Moi, c'est un peu ça aussi que, enfin, c'est ça aussi qu'on recherche avec Sophie quand on s'intéresse à plein de choses. C'est voilà comment on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours et surtout aussi l'utiliser avec nos clients. Et du coup, alors parce qu'on a digressé un petit peu par rapport au sujet, procrastination. Qu'est-ce que tu pourrais, comment on peut combattre, comment tu combats toi la procrastination au quotidien?
Comment je combats la procrastination? Déjà, bah, j'ai beaucoup écouté de vidéos, podcasts ou même le livre Deep Work. Donc, Deep Work, le principe, c'est de vraiment de tout couper pendant, je crois que c'est 2 à 4 heures, enfin, en tout cas, ouais, 2 à 4 heures. Donc, une demi-journée, ouais, une demi-journée, on va dire ça comme ça. Donc, de couper toute distraction du coup numérique, donc les portables en silencieux, même voir à l'extrême, mettre dans une boîte avec seulement une personne qu'on connaît à le code. Faut vraiment se focaliser sur la tâche qu'on est en train de faire qui demande une attention unique. Donc ça, j'essaie de mettre ça en place. Enfin, j'essaie de mettre ça en place et j'espère pouvoir réussir plusieurs fois par semaine à la mettre en place. Le vendredi, ça marchait bien parce que le vendredi, comme tu le sais, j'ai arrêté de coacher. Donc du coup, je suis focalisé sur l'ordinateur. Donc voilà, je coupe toutes les distractions, toutes les notifications, tant que j'ai pas fini l'action que je me suis programmé de faire, bah, je la continue. Donc ça, c'est vraiment un gros plus qui m'aide à être hyper productif. En fait, le vendredi, je me sens hyper bien parce que je ne suis pas en échec et je suis hyper productif. Et c'est pas très agréable d'être en échec, on va pas se mentir.
Donc, ouais, et ça, je trouve que c'est une excellente stratégie dans le sens où les coachs, généralement, et je dis les coachs parce que j'y suis et j'y ai été confronté, c'est que souvent, on fait nos tâches qui sont importantes entre deux coachings où tiens, bah, il y a Gary qui m'a planté à 10h30. Bon, bah, j'ai un peu de temps, je vais faire ça. Bon, on est dans le club. Si on est dans un club, on fait ça un peu à l'arrache dans sa voiture. Si on fait du domicile, mais on n'est pas en deep work. On n'est pas focus. On s'est pas concentré sur tiens, c'est clair que le fait d'avoir une journée dédiée, bon. Peut-être que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre une journée, mais au moins avoir des plages plages horaires au moins de 3 heures ou au moins 2 heures minimum où tu es vraiment focus sur OK, là, le vendredi de 8h à 10h, je fais ça, quoi. J'éteins mon téléphone, je regarde pas TikTok, Instagram, je regarde pas YouTube. Je me focus, OK, c'est quoi les actions, les plus grosses actions, et on le voit avec les membres du Mastermind, souvent, et même moi aussi le premier, j'ai aussi besoin de temps en temps qu'on me dise, oh, Andy, c'est bon, on est focus sur le truc. Et souvent, moi, mon rôle aussi au sein du Mastermind, c'est OK, c'est cool, peut-être que ça peut aboutir sur quelque chose, mais est-ce qu'il n'y a pas autre, enfin, il n'y a pas plutôt des choses plus importantes, tu vois. Et le fait, effectivement, comme tu dis, toi, tu as fait le choix, effectivement, de prendre cette journée-là. Et c'est clair que tu sais que le vendredi, c'est focus là-dessus, quoi.
C'est ça. Puis après, il y a aussi voilà, des applications. Voilà, faut faire un peu, se poser la question un peu de des choses quand on est en train de faire un achat, souvent les achats sont émotionnels, se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et souvent, on attend 7 jours, on ne se sent même plus de quoi on voulait acheter. Donc souvent, on n'a pas besoin, c'est juste émotionnel. Et bien, en fait, je vous conseille de faire pareil. Vous prenez votre téléphone, là, si vous en avez un ou deux, voilà, vous prenez le téléphone, vous regardez les applications qu'il y a sur le téléphone, vous vous dites, bon, est-ce que ça m'importe mon business? Oui, non, non, allez, boum, je supprime. Un peu comme les vêtements, on en a 10 000 dans notre placard. Si on regarde les vêtements qu'on a portés durant l'année qui vient de précéder, au final, moi, je travaille 4 jours sur 7 en bleu. J'ai porté 90% du temps des polos bleus GA. Donc, est-ce que les autres vêtements, je les mettrai un jour? Bah, pas plus que ça. Donc déjà, le fait de ne pas en acheter de nouveau, c'est pas mal. Et en jeter ou vendre les autres. Les applications, bah, c'est pareil. Est-ce que TikTok, ça me sert dans mon business? Non. OK. Oui. OK. Bah, par contre, je le mets en silencieux quand, quand besoin. Instagram, est-ce que ça me sert? Est-ce que, je ne sais pas, après, il y a plein d'applications. Hein. Est-ce que Gmail, ça me sert, etc. Donc, des fois, il faut mieux les supprimer totalement. Comme ça, au moins. Voilà. Plus vous êtes loin du gâteau au chocolat, moins vous avez de chance de le manger. Hein. C'est comme quand vous dites souvent à vos clients. Hein. Si vos clients, ils achètent forcément le, quand ils font les courses le samedi, là, en plein après-midi avec les enfants, et qu'ils achètent tout un tas de gâteaux et qu'après, ils en ont les placards, bah, ils ont une forte chance de craquer. Hein. C'est QFD, hein, je vais te dire. Je pense que j'ai donné pas mal d'exemples concrets. Hein. Je pense que l'image, vous les avez dans la tête, là.
Non, j'en suis la preuve vivante depuis que j'ai des enfants. C'est clair que voilà, s'il y a des gâteaux, bah, tu es plus susceptible d'être tenté que s'il n'y en avait pas.
Eh oui.
OK. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Bon, là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais bon, on reviendra peut-être ou ce sera peut-être non, des sujets.
C'est quelque chose qui me vient aussi, je pense, la procrastination. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et je pense qu'il faudrait pas non plus aujourd'hui, c'est un peu pointer du doigt d'être de mettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Alors qu'en fait, on est tous comme ça, sauf qu'il y en a beaucoup qui le montrent pas. Donc il faudrait pas le prendre, comment dire, pas le prendre au premier degré, c'est-à-dire faut pas que ça nous ronge. C'est pas si grave d'être procrastinant.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est exactement aussi le fait d'être le premier de la glace, tu vois. Aujourd'hui, quand tu sors un peu du cadre, t'es pointé du doigt, et c'est un peu ça aussi la réflexion, c'est que c'est aussi bien de temps en temps, tu vois, un vendredi, tu t'es dit de bosser, tu bosses pas. En fait, toi, c'est pas grave. Tu te dis bon bah, le pire c'est d'avoir des remords, quoi, si tu veux. Parce que là, du coup, ça te gâche. Ou c'est un peu le parallèle où avec la bouffe ou. Moi, quand je mange un truc qui est pas conventionnel au niveau healthy. En fait, je prends du plaisir, alors qu'il y a certaines personnes, ils culpabilisent pendant qu'ils le mangent. Donc déjà, bah, ils prennent pas de plaisir à manger un truc qui est super bon et qui devrait. Et puis en plus, du coup, ils s'auto-flagellent, ils se disent « putain, je suis une vraie merde après parce que pour X ou Y raison », et ils s'en veulent pendant des jours. Alors que autant, voilà, bah, il y a des fois, moi non plus, je suis pas du tout productif. Je me dis « bon, bah, je regarde une série, je regarde un truc Netflix, etc. Et c'est pas grave, tu vois. Je pense que le pire, c'est ça, c'est d'être dans le remords, quoi. Parce que du coup, tu profites pas de l'instant présent et ça va te pourrir, du coup, jusqu'à la semaine d'après, quoi.
C'est ça. Puis c'est aussi important de sortir de son cocon parce qu'on apprend beaucoup plus aussi qu'on pourrait croire en sortant de nos zones de confort, donc en sortant de chez soi. Le seul fait d'aller, par exemple, je sais pas, de prendre un service, pas d'aller chez le coiffeur, d'aller chez un épicier, de voir des petits trucs en plus qui peuvent être ajoutés à notre business. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais énormément. Je donne beaucoup d'argent J'en dépasse un peu beaucoup pour, un peu partout, pour voir un peu ce que ça donne au niveau de service, pour améliorer le mien. Tu vois, quand je donne 30 euros au coiffeur pour me faire la coupe et la barbe, bah derrière, voilà, je suis bien accueilli, il a un beau salon, il me propose le thé, donc je dis « Ah, ça pourrait être pas mal si je proposais ça dans mon service. » Il est dans le niveau conversation, il rentre directement dans le vif du sujet, il n'est pas là en train de galérer à faire la conversation. Boum, direct, il rentre dans le tas, quoi. Et il met bien à l'aise directement au bout de 3 secondes. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de coachs ont du mal à faire. Donc, s'inspirer d'autres business qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que le coaching, comme la coiffure notamment. J'espère pouvoir y aller encore jusqu'à ce que mes cheveux tiennent encore sur ma tête.
Ouais, voilà. Encore quelques années devant toi.
Oui, bah, prends en camoufle comme on peut, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était ma petite pensée par la procrastination.
Alors, du coup, c'est à moi. Et ben moi, je commence par le chiffre 1, ce que j'aurais savoir, la première pensée que tu as eue en écrivant les questions. C'est quoi le premier truc auquel tu as pensé?
Ah, du coup, c'est pas forcément un thème comme ça, procrastination, mais c'est une question assez ouvert, hein, forcément. Ça serait d'après toi, qu'est-ce qui fait vraiment la réelle différence entre un coach qui réussit et un coach qui est en échec et qui va du coup arrêter sa carrière, qui va se reconvertir dans l'immobilier, dans les assurances ou à McDo, Burger King, etc.
Je pense que c'est de le faire suffisamment longtemps pour aimer ça. Parce que souvent, on te dit… alors, il y a le côté, oui, je suis passionné par un sujet ou je suis passionné par le sport, je suis passionné par la nutrition, je suis passionné par le truc. La passion aussi, elle vient en le faisant. Moi, c'est ce que j'ai compris. Par exemple, sur la partie notamment tout ce qui est business, entrepreneuriat, pour moi, c'était pas, j'étais pas voué à avoir des business, des entreprises ou autres. Et en fait, c'est que… toi, c'est un peu le… C'est le chemin qui est intéressant. Tu vois, la destination, c'est une chose, mais là où tu apprends le plus et là où tu justement tu prends un kiff total, c'est le chemin qui est pas forcément linéaire. Tu as des hauts, tu as des bas. Mais en fait, il faut, pour moi, apprécier le chemin dans lequel tu es, où tu es destiné à aller, quoi. Et pour revenir du coup à la question initiale, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres non, c'est que ils s'arrêtent avant. J'ai toujours cette image, je le dis souvent dans les podcasts ou autres, j'ai tout souvent cette image qu'on voit souvent là sur les médias sociaux où c'est le chercheur d'or ou le chercheur de diamant là où en fait t'es à une pioche de trouver la pépite. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, on veut tout tout de suite, et que si tu avais attendu peut-être une semaine de plus, peut-être que tu vois, ce serait, t'aurais déclenché le truc qui fait que. Et je suis un peu toujours dans ce truc-là de me dire que plus de toute façon, je vais faire les choses. Il n'y a pas de raison en fait que je ne m'améliore pas, tu vois. C'est le principe, si j'avais compris ça ou si mes parents m'avaient expliqué le concept des intérêts composés, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'argent, j'aurais été beaucoup plus riche aujourd'hui. Mais je pense que dans le travail aussi, c'est la même chose. N'importe quel type de job que tu vas faire, chaque jour, si tu mets une petite pierre ou si tu t'améliores 1% de plus chaque jour, tu vas prendre de la satisfaction aussi. Je pense qu'on est des êtres humains où la confiance, et je le vois avec mon fils quand t'es tout petit, voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi certains profils ou naturels de personnes qui ont plus confiance en eux, mais je le vois avec Mathéo où il a besoin d'être beaucoup rassuré et du coup voilà, le rôle aussi des parents, c'est ça. Et je l'ai vu avec le fait de faire du vélo. Accroche-toi, tu vas y arriver. Et puis en fait, maintenant, il a balancé sa trottinette et il veut faire que du vélo, quoi. Parce que en fait, il s'est aperçu qu'il arrivait à faire du vélo et c'était hyper gratifiant. Et en fait, c'est ce chemin-là, je trouve qu'il est, enfin, je sais pas ce que t'en penses, ouais, mais ce chemin-là qui est hyper gratifiant aussi pour l'entrepreneur que l'on est, que le coach que vous êtes ou le manager et tout. Souvent, on voit la finalité. Et c'est enfin en tout cas moi la vision, je pensais qu'à l'argent au début, c'était un mauvais driver pour moi. Et forcément, plus t'es focus sur ce truc-là, sur le truc qui brille, moins tu vas l'atteindre. Alors que si t'es plutôt focus sur ce chemin et te dire ah voilà, je vais mettre jour après jour, semaine après semaine, les choses pour améliorer tout ça. En tout cas pour moi, ça a beaucoup mieux fonctionné de cette façon-là, quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un peu cette démarche-là entre celui qui va abandonner tout de suite parce que soit l'objectif il était beaucoup trop grand d'un coup et que il avait pas les bons leviers pour y arriver, quoi.
Ça, parce que normalement, que je sache, on est toujours à 80% d'échecs au bout de 2 ans de coaching, quoi. Parce que comme tu dis, les coachs ne persévèrent pas assez et surtout ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas formés pour avoir des clients et réussir. Ils sont formés en savoir-faire plus qu'en faire savoir. Et du coup, moi, si je réponds à ma propre question, ça serait plutôt le manque de compétences générales. Moi, je trouve que beaucoup de coachs, du coup, ne savent pas vendre. Donc, c'est ça qui complexifie la chose. Et j'irais même plus loin. Alors, ça peut faire beaucoup de débats peut-être dans les commentaires, etc. Mais je trouve que les coachs ne savent pas coacher. C'est un peu paradoxal. Les coachs ne savent pas coacher. Ils ne savent pas coacher.
Mais ça, c'est marrant que tu dises ça. Je crois que je l'ai noté dans un des 10 points. Quand j'ai commencé, bon, j'ai commencé à être formateur. Le même coup, j'étais pas prédestiné à faire de la formation, mais moi, mon expertise, c'est tout ce qui est lié à l'entraînement fonctionnel. J'ai eu la chance, notamment quand je travaillais en, je donnais beaucoup de formations en Suisse et grâce à FitsPro, j'ai été beaucoup à l'étranger me former sur des spécialités. Alors aujourd'hui, ça fait partie du paysage, on va dire, du fitness, tout ce qui est entraînement fonctionnel. Mais il y a dans les années 2010, c'était assez nouveau sur la francophonie en tout cas. Et du coup, toutes les formations que je faisais, elles tournaient autour de l'aspect technique. Et après, quand j'ai découvert le business, du coup, ça s'est dirigé sur le business. Mais c'est vrai que être bon vendeur, c'est bien, avoir des connaissances dans la partie business, gestion. Mais souvent, on oublie. Et je pense que maintenant, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, tous les entrepreneurs, tout le marketing, toute la publicité, on est targeté et tout. J'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur faire des funnels, faire des stories, travailler sur ça. Mais en fait, tu vends un truc où c'est creux à l'intérieur. Et je te rejoins un peu là-dessus. Alors bien sûr, on est obligé de faire des généralités. Bien sûr qu'il y a des, heureusement, il y a des personnes qui travaillent très bien et j'en connais et j'en interview aussi beaucoup. Mais c'est aussi le sentiment que j'ai. C'est que le coaching aujourd'hui, en tout cas moi, quand j'ai pu le faire, quand je l'ai démarré en 2005-2010, c'était complètement pourri, tu vois, mes séances de coaching, parce que déjà, on n'avait aucune référence, on ne savait pas trop ce que c'était, ce qu'on devait faire et tout. Et je faisais que du sport où j'essayais d'entraîner les gens que sur la partie sportive. Et puis aujourd'hui, oui, ça change, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Et surtout, le fait de ne pas savoir coacher, ça peut être paradoxal pour des coachs sportifs qui sont formés du coup maintenant entre 5 mois et 3 ans pour ceux qui sont en licence TAPS ou même en master. En France, licence, c'est déjà bien. Et c'est surtout deux axes que j'avais envie de parler par rapport à ça, au manque de compétences pour coacher. Au final, c'est à la fois le côté service, le côté expérience client. Donc souvent, les coachs que j'ai pu voir, parce qu'il faut savoir que dans le côté entraîneur, en 4 ans, j'ai recruté 25 coachs au total, donc avec des échecs, avec des grandes réussites. Donc j'ai l'expérience, j'ai pu observer et analyser du coup les victoires et les échecs. Et souvent, dans le premier axe, en fait, c'est que les coachs ne savent pas parler. Ils ne savent pas dire bonjour. Ils disent bonjour timidement. Ils savent pas aller vers les gens. Ils ont du mal à porter une tenue reconnaissable alors qu'ils l'ont eux-mêmes acheté. C'est très compliqué. Ils n'ont pas d'argument. Donc, dès qu'un client va dire, c'est de la vente, mais voilà, c'est trop cher. Ah, qu'est-ce que je dis, Gary? Je ne sais pas quoi dire. Tu vois? Et après, si on parle d'aspect technique, donc en fait, oui, pour synthétiser, en gros, c'est qu'ils n'ont pas de savoir-être. Ils ne vont pas, par exemple, raccompagner la personne après la séance jusqu'à la sortie. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup. Ils n'ont pas la petite serviette, ils n'ont pas la petite bouteille d'eau s'ils les ont oubliées. Ils se souviennent même pas de leur nom, des fois. Ils ne se souviennent pas de la séance qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ne se souviennent pas s'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, l'âge qu'ils ont, le métier qu'ils font. Ils ne savent même pas depuis quand la personne est inscrite à la salle. C'est une catastrophe. Ils sont sur le portable pendant la séance. Ils mettent des charges pas du tout adaptées. L'exercice, il est mal fait. Ils vont voir quelqu'un d'autre pendant le coaching. C'est une catastrophe. Donc, rien que ça, déjà, en moyenne, l'heure de coaching en France est à 50 euros. Par rapport à tout ce que j'ai dit là juste avant, précédemment, qui va donner 50 euros régulièrement, à chaque séance, toutes les semaines, tous les mois, pour avoir un coach comme ça? Vous écoute? Personne, bien sûr, c'est bien ça. Et la deuxième axe, c'est qu'ils ne savent pas coacher. Ils ne savent pas coacher comment? C'est des gens qui sont fans de muscu. Fans de muscu, voilà, des coachs, des hommes et des femmes qui ont eu dans leur vie une progression. Donc, ils sont devenus coach par la suite parce qu'ils voulaient avoir ce rôle-là pour pouvoir aider d'autres personnes comme on a pu par le passé les aider, du coup les faire élever. Donc c'est comme ça que hommes et femmes sont devenus coach, en tout cas en France, et tout ce que j'ai pu voir, et notamment aux personnes présentes dans le mastermind aussi. Et il se trouve après qu'ils sont vraiment fermés ou dans une carte du monde qui est la leur, mais pas celle des autres. En carte du monde, c'est notion de PNL. Et ça veut dire que pour eux, c'est muscu, 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 muscu. Pour eux, c'est impossible de faire une séance de coaching en dessous d'une heure. C'est très dur de conscientiser ça. Au-dessous d'une heure, ce n'est pas possible. En dessous d'un coaching de 3 heures par semaine, de 3 fois 1 heure, c'est impossible qu'il y ait du résultat. Que de la muscu, que de la muscu, de la muscu. Moi, je leur dis, la plupart du temps, fais de la muscu. Pour toi, c'est super, c'est génial, tu vas progresser, c'est dans ton objectif. Mais la plupart des gens, du coup, lambda, la muscu, au début, ça peut être super. Parce que, par exemple, une femme qu'on va emmener en zone libre, aux zones de poids libre, ça va être super parce qu'elle ne serait pas allée toute seule sans coach parce qu'elle aurait peur du regard des hommes, de ne pas savoir quoi faire, etc. C'est des choses de terrain que je suis en train de vous dire, les amis. Mais une fois qu'elle a fait quelques séances, quelques mois, machin, la muscu, ça, c'est chiant, quoi. La muscu, ça peut être chiant. Et ce qui marche le mieux, notamment, par exemple, pour une perte de poids, même pour prendre du muscle aussi, surtout pour perdre du poids, c'est l'entraînement fonctionnel, comme disait Andy. Donc, c'est de faire des exercices simples. Ça peut être des squats, ça peut être du lancer de slam ball, ça peut être des exercices que vous créez vous-même. Moi, j'ai un peu cette spécificité de faire des exercices que, comme je dis à mes clients, vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que je m'inspire de beaucoup. Par exemple, j'ai un exercice que j'ai appelé le World Strongest Woman. Donc, je mets 2 box au plus haut, je mets le bosu et la personne, elle doit ramasser le ballon de 12 kilos pour mettre par-dessus. Je balance, elle doit faire 20 fois ça. Ça n'existe pas. Par contre, niveau effort et niveau de tous les muscles du corps de travail avec le cardio, je peux vous garantir que la personne après, elle est lessivée. Ça peut être des squats full ball, ça peut être, je fais aussi pas mal de animal flow, mais à ma façon. Donc voilà, je dis, vas-y, on va faire le gorille, on va faire la marche de la loutre, on va faire des exercices comme ça qui montraient vraiment le corps d'une certaine façon. Et en plus de ça, j'ai trouvé un nom qui est fun. Et en plus de ça, c'est l'exercice que les gens ont un peu peur de faire parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc le fait de le faire, moi, j'appelle ça un exercice de confiance. C'est-à-dire que dans chacun de mes séances de coaching, pour les nouvelles personnes et même pour les personnes qui sont là depuis quelques temps, il y a toujours un exercice de confiance. Parce qu'à Basic Fit, souvent les heures, il peut y avoir beaucoup de monde. Donc tu peux avoir programmé ta séance, préparé ta séance pendant 1 heure. Quand tu es arrivé, ton plan A, il tombe à l'eau, ton plan B, ton plan C, ton plan D, même ton plan Z, il tombe à l'eau. Tu ne prépares plus de séance à force. On peut même dire ça pour certains coachs, ils vont avoir le poil dressé. Là. Ils vont avoir le poil dressé. Mais moi, quand depuis Bafit, j'ai préparé mes séances pendant 10 jours. Quand j'ai commencé. Après, je n'avais plus jamais préparé parce que je sais que la personne est à ça disponible. Et moi, je suis un créatif, donc j'ai juste besoin de boum, il y a de l'espace, ok, on va faire des fentes, ok, tac, tac, tac. Donc, il y a plein de choses que les coachs sont braqués. Pour eux, c'est 1 heure, pas moins. Moi, je ne fais que des séances de coaching de 30 minutes, faut le savoir. La personne, elle vient 10-15 minutes avant pour pouvoir s'échauffer parce que je considère qu'elle n'a pas besoin de moi pour faire l'escalier, du rameur ou du tapis en côte. Donc derrière, elle s'est chauffée, je la récupère et je la massacre, comme je dis. Et au-delà de ça, le fait de faire venir la personne avant, ça permet de voir si elle est disciplinée. Donc là, on revient un peu à la procrastination juste avant. Voir si elle est autodisciplinée. Donc cette personne, au lieu de venir comme qu'on sait 10-15 minutes avant pour faire le cardio et qu'au final, elle arrive à la bourre ou elle arrive pile poil à l'heure, le coaching peut s'avérer compliqué dans les mois qui arrivent. Et je me sers aussi de l'outil. Du coup, je me sers de l'outil entraînement fonctionnel beaucoup, à 90% du temps. Je me sers de l'outil musculation, peut-être pas 90% du temps, mais 80% du temps en entraînement fonctionnel, 10% en musculation, 5% en yoga, parce que je suis formé aussi en yoga vinyasa, et je dirais 5% en boxe, même si ça tend à plus des fois. Donc, j'ai pas mal de boxe, ce qui plaît énormément. S'il y a vraiment une activité tendance maintenant, avant maintenant, et même dans quelques années, avec l'avènement du MMA, notamment en France depuis 2020, un coach qui est formé en boxe, en pied-point, etc., vous allez attirer beaucoup plus de leads, bien sûr, si vous êtes formé en vente avant. Voilà, pour mon petit monologue.
intéressant tout ça, et je pense qu'on pourra en rediscuter, parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à tout ça. Je vois qu'on est quand même assez bavard pour simplement une petite question ou un petit mot.
Eh oui, comme quoi les hommes aussi peuvent être bavards. Eh oui, comme quoi aussi les hommes peuvent l'être.
Ce que je propose, c'est que on en fait encore un.
Allez. Ça part.
Alors, vas-y. Attends, tu étais quoi? C'était la 5, je la raye.
Le 7, ça porte bonheur.
Le 7, le métier de head trainer.
Ah, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Le métier de head trainer.
Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le métier de head trainer? Parce que, alors, pourquoi j'ai noté ça?
Il y a une réflexion. Ça m'intéresse de savoir.
Hein?
Ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as noté métier de head trainer en fait.
Oui, parce que bah depuis que en activité, depuis que le métier de ce rôle de head trainer existe un petit peu, j'ai côtoyé beaucoup de head trainers. J'en ai interviewé aussi pas mal. Et du coup, en discutant, alors soit à travers les interviews sur le podcast ou des rencontres que j'ai pu faire, chacun a des définitions différentes, chacun fait des choses différemment sur l'accompagnement, sur ou autre. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
Ok, le métier de head trainer.
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que le métier de head trainer, il est différent en fonction de chaque head trainer?
Oui, suivant les sensibilités, hein, c'est un peu comme tout dans la vie, mais encore plus pour le head training, je pense. La sensibilité est différente, l'histoire est différente, le passé est différent, etc.
Donc, c'est un métier qui est nouveau aussi, quoi. Il n'y a pas trop de points de comparaison, même ça fait quand même quelques années, mais c'est encore tout nouveau, quoi.
Oui, je pense que ça a dû commencer en France en 2017, je pense.
Donc oui, pour resituer un petit peu le head trainer, resituer un peu qu'est-ce qu'un head trainer, parce que pour que tout le monde…
Head trainer, c'est un terme qui est arrivé avec l'arrivée de Basic Fit en France. Voilà, tout simplement. Donc head trainer, moi j'aime bien les mots français parce qu'on est dans un pays où l'anglais, c'est pas notre fort. Donc j'aime bien appeler ça coach en chef. J'aime bien appeler ça. Je parle ça à mes clients, ça leur parle bien. Donc head trainer, le job de head trainer, en fait, c'est de pouvoir recruter, former et accompagner d'autres coachs sportifs indépendants à vivre du coaching à 100%. Voilà, donc en gros, un trainer, il va louer sous contrat, donc un club Basic Fit en l'occurrence, pour pouvoir y mettre des coachs à l'intérieur et pour pouvoir du coup les former en vente. Après, tous les trainers ne forment pas quand les coachs démarrent dans leur équipe, malheureusement, j'ai pu apprendre ça il y a quelques mois. Donc voilà, ils les forment, ils font en sorte que tout se passe bien et que ils savent comment vendre aux prospects qui sont déjà plus ou moins chauds dans le club Basic Fit. Et puis c'est voilà.
Je peux prendre un poste de head trainer sans être coach.
Pas forcément la réponse à ta question. Là, je t'avoue.
Ok.
J'ai pas forcément la réponse à ta question. Je sais que la majorité, en tout cas, de ceux qui réussissent pour les plus gros, ont déjà été coach. Donc, en dehors de Basic Fit et à l'intérieur de Basic Fit. Certains, c'est une fraude, hein, parce qu'ils ont été moins d'un an coach à Basic Fit. Bon, pour moi, ça, c'est une fraude absolue. Pour moi, avoir fait plusieurs années à Basic Fit pour comprendre comment ça se passe dans Basic Fit et si la relation commerciale plaît ou être trainer. Pour moi, quand tu as fait 8 mois de coaching dans un Basic Fit et que tu deviens entraîneur, c'est plus pour la peine du gain ou pour la notoriété, parce qu'il y a certains entraîneurs qui voient plus ça comme une bataille de territoire qu'autre chose. Et prendre des clubs pour prendre des clubs, ça ne rapporte pas nécessairement. Et bon, chacun, ça, c'est à trop jouer à Scarface quand ils étaient petits. Hein. Prendre des territoires, prendre les trucs. Mais il y a des exemples. Je connais un certain entraîneur qui n'ont jamais coaché dans un Basic Fit, mais qui ont pris. Qui est coach, mais qui a pris par exemple des clubs et qui a mis des coachs dedans, mais lui qui n'a jamais coaché à Basic Fit par exemple. Après, quelqu'un qui n'est pas coach du tout, je pense pas, en tout cas je connais pas, et je sais pas si ça peut arriver, je sais pas si Basic Fit peut valider ce genre de profil sans être associé à quelqu'un qui a déjà été.
Non mais la question, oui. Non mais La réflexion, elle est intéressante parce que tu vois, il y a des franchisés qui prennent qui prennent une marque, une franchise de club, c'est des investisseurs, ils ont de l'argent et du coup, ils y connaissent rien, entre guillemets, dans le fitness, mais ils veulent développer le truc. Là, c'est un peu, certes, c'est un peu différent, on est d'accord. Voilà. Je balance des trucs, moi, c'est mon rôle, mais OK par rapport à ça. Et du coup, c'est quoi, toi, ta vision du head training alors?
Ma vision du head training, déjà, ça serait, comment dire, difficile à en parler quand même, le training. Ça serait ma vision, ça serait, accompagner des coachs simplement qui en vaut la peine, qui ont la petite flamme en eux, pour pouvoir faire en sorte que cette flamme devienne un brasier. C'est comme ça que je recrute, on va dire, au lieu de recruter sur tout ce qui est technique, tout ce qui est diplôme ou tout ce qui est, ce qui vaut rien au final pour moi. Pour moi, les diplômes ne valent rien. On donne trop d'importance aux diplômes en France. Au final, c'est éclaté. Hein. Le nombre de personnes que j'ai eues en entretien, master, licence STAPS, etc. Et moi, je viens de STAPS encore. Ils étaient éclatés sur le terrain, des licences en psychologie, des licences en STAPS, éclatés au sol, mais éclatés. Donc, les diplômes, on donne trop d'importance. Ça, c'est une certitude. Bon, moi, tant que je vois qu'il y a une petite flamme et qu'il y a vraiment une envie, je vais donner ta chance. Et je vais faire en sorte, du coup, t'aider. T'accompagner plutôt, parce qu'accompagner c'est mieux qu'aider. Accompagner c'est montrer, aider c'est faire. Enfin, c'est voilà, en gros, aider c'est prendre le papier toilette et t'essuyer. Accompagner c'est plutôt, voilà, voici le papier toilette, regarde, c'est comme ça qu'on fait, vas-y, je t'en prie, fais-le. Je préfère accompagner du coup. J'aime pas avoir les mains sales.
Je visualisais avec mon fils Mathéo. Pour l'instant, je suis en train de l'aider, quoi. J'espère être bientôt dans la démarche de l'accompagner. Ouais. Pour l'instant, si je l'accompagne, c'est le drame. Hein. Ça dépend quel type de personne, effectivement.
C'est ça. Puis après, ça serait prendre un club, y mettre suivant la taille du club, parce que souvent les tailles de club, donc S, M, L, XL, hein, c'est un peu comme les t-shirts, un peu comme les polos. Ça, c'est BuzzFeed qui détermine la taille de la salle. Donc, c'est par rapport au nombre de mètres carrés, ça dépend à l'emplacement, la zone de chalandise, ça dépend de plein de choses qui sont de leur propre chef, en tout cas, qui détermine en interne chez eux. Et après, ils proposent cette taille-là aux entraîneurs qui veulent bien la prendre, tout simplement. Donc après, ça serait, voilà, ne pas prendre toutes les salles pour prendre des salles et pour faire bien en société. Ça serait prendre des clubs qui ont un potentiel, un peu comme une maison au final, et voir si la facilité de mettre des coachs, d'y mettre des coachs, c'est facile ou pas. Suivant les villes, je sais pas, si on prend une ville moyenne comme Le Havre, par exemple, hein, je dis ça totalement par hasard.
Je connais pas Le Havre.
Ah ouais, c'est peut-être difficile parce que peut-être qu'il n'y a pas de centre de formation de coach, peut-être qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de coach, peut-être qu'à Paris, je ne pense pas être dans l'erreur en disant ça, c'est plus facile d'avoir des coachs, mais il peut être aussi plus difficile d'en avoir parce que ils sont peut-être un peu partout et nulle part à la fois. C'est aussi un problème de coach. Donc, suivant la ville où vous pouvez être, ça peut être difficile de trouver des coachs en tant qu'entraîneur. Et des fois aussi, il faut pouvoir aussi, dans l'entretien, essayer de capter la motivation de la personne. Parce qu'après, dans une même équipe, il peut avoir un certain temps des motivations différentes dans chacun de ses membres, mais à un moment donné, ça peut casser, quoi. Parce que on apporte tout le savoir-faire, donc de vente, de formation, d'accompagnement, des réunions, de fun, de tout ce que tu veux. Mais si la personne derrière elle ne donne rien en retour, c'est une collaboration qui ne va pas perdurer, quoi. Moi, j'essaye de travailler qu'avec des gens que j'ai envie de voir. Aujourd'hui, je suis presque à 100%, presque, ce n'est pas le cas de tout le monde. Presque 100% de mes coachs, je suis vraiment content de les voir, presque. Voilà. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un, c'est un peu comme un couple, hein. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui t'a pas de projet et qui t'y croit pas, quoi. Encore une fois, c'est la métaphore du couple, elle est très… est très bonne.
Après, tu as deux positions. Tu as deux positions en te disant moi, je mets à disposition un endroit et puis entre guillemets, il fait ce qu'il veut. Ou soit tu as une démarche comme la tienne d'être un petit peu plus, paternaliste ou en tout cas vraiment les couconner pour qu'ils puissent y arriver. Je sais pas.
Alors, c'est sûr, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle parce que souvent, quand j'ai le contrôle, ça se passe véritablement bien. De mon propre avis, hein, qui est bien sûr non objectif. Parce que souvent, en plus, dans ces cas-là, Coacher des salariés, enfin avoir des salariés, c'est très difficile déjà. Mais coacher des indépendants, c'est notre paire de manches.
Parce donc, voilà, ils sont devenus indépendants pour ne pas avoir de, pour pas avoir de patron.
C'est ça, mais souvent, quand tu es traîneur, c'est eux qui peuvent te mettre dans la sauce. Quoi. On a un contrat à respecter avec Basifit, ils ont un contrat à respecter du coup avec toi, mais du coup avec Basifit. Donc, s'ils font n'importe quoi, c'est à toi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Donc, ouais. Souvent, en fait, celui qui prend le plus de risques, en fait, c'est le entraîneur, toujours et toujours. Donc, voilà, si le gars dans son contrat est marqué qu'il doit porter telle ou telle tenue et qu'il ne les porte pas, Basifit ne va pas aimer. Et c'est bien normal, parce que c'est marqué dans le contrat qu'il doit avoir une tenue. Du coup, il y a marqué coach dessus. S'il commence à avoir des gestes déplacés sur la clientèle du club, le entraîneur doit pouvoir intervenir et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et ça existe, hein, ça existe. Hein. Ça existe, évidemment. Donc, c'est le entraîneur qui prend plus de risques, à la fois parce qu'il prend le loyer global de la salle, il doit faire en sorte de se faire payer aussi. Voilà, donc tout un process doit être carré, il doit pouvoir, dans le club, du coup, avoir une profile card avec toutes les informations. Enfin, il y a toutes des règles à respecter, ce qui est normal. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en base d'équipe. Hein. Par exemple, c'est interdit de mettre tous ces flyers sur les ports, sur les casiers, tout ça, c'est interdit. Il y a tout un marketing prévu et carré. Beaucoup de coachs, quand ils démarrent, ils pensent que plus on va voir leur tête, plus ça marchera. Bah, spoiler alert, c'est faux. On va te voir pendant 3-4 jours après, le marketing ne marche plus. Hein, et ça ne va pas te servir. Hein, te voir les bras croisés comme ça sur une photo où tu gonfles tes biceps, ça ne va apporter rien du tout hein, comme argent. Hein, ça n'attire pas du tout les gens qui veulent du coaching et qui payent pour du coaching. Hein, ça ne va pas attirer Natacha ou les gens qui payent. Hein, tu vas payer. Tu vas attirer que des Dylan qui font du développé couché à 60 kilos. Enfin, chacun son avis. Hein.
Donc, être traîneur. Je pense que ça sera une autre. Je vais le noter. Ça sera une autre. Je vais la mettre dans. Si on a l'occasion de refaire ce genre de. Non, c'était sur la rentabilité. Par exemple, je vais te la poser du coup.
Allez, vas-y.
Si je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, avec un business de head trainer, mm-hmm. ça va me nécessiter énormément de coach.
10 000 euros par mois ?
Alors, non. Non, parce que non. De rentabilité.
Ah oui, c'est pas la même question du coup. Oui,
c'est pas le chiffre d'affaires, parce que forcément, oui, le chiffre d'affaires, ça peut aller vite. C'est ce niveau de. En fait, le niveau d'implication que ça nécessite. Bon, après, tu vas me dire, tout dépend du nombre de coachs, de toute façon, la règle. Enfin, après, voilà. Tout dépend aussi de la posture du head trainer, si c'est de remplir le plus de coachs possible dans un club pour qu'il y ait le plus de rentabilité par club. C'est toujours équilibre-là, parce que. Ok, tu veux rentrer le plus de coachs, mais il faut que tu t'assures que tous les coachs qui sont à l'intérieur gagnent leur vie, quoi. Parce que sinon, ça ne joue pas. Hein, le modèle est.
Ouais, c'est assez complexe. Hein. J'ai parlé beaucoup d'être traîneur, justement. Après, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont totalement arrêter le coaching. Il y en a qui continuent et qui ont quelques clubs, comme moi, notamment. Moi, j'ai 4 clubs, hein, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 4 clubs et 8 coachs là où on enregistre, au moment où on enregistre cette vidéo, ce podcast.
4 clubs, 8 coachs, donc 2 par club.
C'est ça. De par club, ouais, c'est ça. J'espère être à 11-12 cette année. Sans prendre d'autres clubs, ce serait vraiment, c'est le goal. 11-12, donc on rajoute encore 3-4. Ça serait top. Donc ça dépend si le head trainer ou les trainers, ils sont encore dans le club ou pas. C'est bien de mettre beaucoup de coachs dans les clubs. Parce que ça sera plus rentable. Mais la plupart du temps, il n'y a pas forcément la place dans certains clubs d'en mettre autant.
Parce que allez si
et pareil, beaucoup d'entraîneurs diront que voilà, s'il faut pas attendre non plus qu'un coach commence à réussir, parce que tu peux attendre longtemps des fois, et le fait qu'il y en ait un troisième ou un quatrième, dans tous les cas, le résultat c'est qu'il va en avoir plus derrière aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore une fois contre-intuitives, hein, mais c'est comme dans le business, l'entrepreneuriat. Le training, c'est très contre-intuitif. Hein. Plus il y aura de coachs dans une salle, plus il y aura des clients et plus il y a des profils différents, plus il y aura de clients, etc. Et attendre qu'un coach, par exemple, il arrive à 3000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, alors qu'il est à 2000 et qu'il il stagne, et il faut juste le rassurer. On parlait de rassurer tout à l'heure. Il faut juste le rassurer sur le fait que si on met un troisième coach ou même un deuxième coach, bah, le fait de le rassurer, voilà, c'est contre-intuitif, mais le fait de mettre un deuxième coach, bah, il aura plus de clients parce que du coup, bah, on verra lui, puis on verra l'autre coach. Et au lieu de se poser la question de est-ce que j'ai faim, bah, ça sera plutôt est-ce que j'ai besoin de coaching, ça sera plutôt quel coach je prends. Donc du coup, c'est contre-intuitif encore une fois, mais ça change la donne. Mais il faut quand même être assez objectif sur, voilà, j'ai un club, par exemple, là, j'ai un club à Fleury-les-Aubrais, exactement, donc c'est Orléans-Nord. C'est un club S, donc c'est le plus petit, c'est la taille la plus minime. Aujourd'hui, je mets deux coachs, un homme, une femme, pas plus. Trois, dans l'immédiat, impossible. Dans un futur proche, dans un futur, on va dire peut-être en 2025, 2026, un troisième, si les deux restent bien et tout ça, pourquoi pas. Mais ouais, deux, c'est déjà bien. Hein. Donc, il va falloir, pour faire arriver aux 10 000 euros de rentabilité, il va falloir avoir soit des clubs un peu plus grands, donc taille M, et en avoir plus dedans. Ce sont les tailles S, c'est une fausse bonne idée. On dira, super, le loyer, il est assez faible. Mais derrière, pour entrer des causes dans un club S, c'est pas facile non plus. Donc,
c'est un peu comme tout. T'as petit, tu gagnes petit, quoi. Comme au casino. Tu vas jouer avec des pièces de 1 euro, tu vas gagner petit. Si tu mets des pièces de 10 euros, quand tu gagnes, tu gagnes beaucoup, quoi.
C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, je pense que le bon deal, c'est un M. Bah, c'est un bon deal, un M, parce que deux coachs, bah, là, il y a la renta, c'est en positif. Et troisième, c'est pas mal. Et souvent, dans un club M, 3-4 coachs, 3, c'est sûr, 4, c'est. En poussant un petit peu et en coachant bien, en accompagnant bien, ça passe.
Tu connais des basic fit où il y a 10 personnels traîneurs? Ça existe, ça?
De ce que j'ai entendu, ouais, à Bordeaux, il y aurait un club au centre-ville qui a 9 coachs. Après, voilà, j'y suis pas pour voir la réalité du terrain. Hein. Souvent, il y a la théorie et la pratique. Hein. Mais ouais, 9 coachs, apparemment, le club où il y a plus de coachs, et ça serait à Bordeaux.
Comme tous les coachs sportifs qui gagnent 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur les réseaux.
Ah, c'est ça. Après, c'est pareil, notre cerveau, il va entendre bien ce qu'il veut aussi. Hein. Quand vous dites à vous.
Non, mais c'est vrai que je ne sais pas si. Parce que je suppose que oui, Bordeaux, Paris, il y a des structures, il y a peut-être des basic fit qui font, 4 000 mètres carrés. Ça doit exister.
Il y a des basic fit où c'est 4 000 mètres carrés, mais c'est pas tous après. C'est des clubs XL, ça, après. J'ai pas l'occasion d'en voir. Il me semble qu'il y en a un à Toulouse. Toulouse, c'est Kier. Donc, si jamais faire un petit tour dans ce club-là dans quelques semaines, avec plaisir. Mais ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, quoi. Après, ouais, faut pas être attiré par le. C'est comme un coach qui commence. Hein. Souvent, un coach qui commence, il va surtout voir ce qu'il perd, donc ses charges, que ce qu'il gagne, et c'est pas la bonne stratégie. Faut mieux voir ce qui rentre et ensuite voir tes charges pour diminuer ce qui sert à rien, en fait. Il y a beaucoup de coachs, malheureusement, en France, on est un peu éduqué comme ça aussi, on est éduqué à l'aversion à la perte, donc en plus regarder ce qui sort de notre porte-monnaie, de ce qui rentre. Et c'est l'erreur de coach débutant, parce qu'ils sont en micro-entreprise pendant pas beaucoup de temps, même pas un an, ils veulent déjà passer en déclaration contrôlée. Et souvent, le fait de passer en déclaration contrôlée, bien sûr, c'est arrangeant pour le coach, parce que c'est un paradis fiscal en France pour les coachs sportifs. Mais derrière, il y a quand même beaucoup plus de travail derrière, quand même. Donc, quand en micro-entreprise, en gros, on fait presque rien en administratif, passer en déclaration contrôlée, ça peut être très difficile. Une marche, des fois, beaucoup trop haute pour un coach qui a débuté en un an et demi. Hein. C'est très difficile.
Il y a des membres du mastermind qui se prennent la tête pour faire leur déclaration. Une petite pensée, si elle nous écoute.
De toute façon, tous mes mots là, j'ai une personne en tête, hein, une seule. Hein.
Je le savais. à moi. Eh bien, du coup, j'ai commencé par le 1, je vais terminer par le 10.
Ah d'accord, entre 1 et 10. C'était quoi hein? Alors le 10, ça serait une question pour vous les femmes. Vous les femmes, tant de charme. Moi, je ne sais plus la suite. Hein. Ce n'est pas mon époque.
Je ne peux pas pouvoir t'aider.
Non, ça serait question. Pourquoi, sur les femmes et le coaching en général. Pourquoi au final, il y en a si peu. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 1000 personnel trainers dans le réseau. En femmes, je crois que ça va être, je n'aime pas, c'est 10%. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il pourrait être fait? Il y a plusieurs questions dans la question. Comment ça se fait? Comment ça se fait dans un premier temps? Dans un deuxième temps, est-ce que tu penses que les femmes ont quelque chose à une grosse plus-value à, enfin, elles sont faites pour ce métier-là? Est-ce qu'elles ont des trucs en plus qu'elles pourraient mettre en avant pour être top coach? Et l'avenir pour toi, c'est une augmentation du nombre de personnes entraîneurs de coach sportifs ou non? Et ouais, pourquoi les raisons, pourquoi elles sont si peu nombreuses?
Ouais, si je fais le. Si je transpose ça de manière à l'entrepreneuriat, moi qui écoute pas mal et qui est beaucoup dans la sphère, on va dire, entrepreneuriat, dans les gros postes, hein, à responsabilité, elles sont pas encore assez nombreuses à mon sens. Bon, je le vois dans les startups ou les entreprises ou les choses comme ça. Et elles sont mises de plus en plus en avant et je pense que ça va aller de mieux en mieux parce que je pense qu'une coach sportive a autant de qualité qu'un homme. Je connais plus d'influenceuses, je crois, femmes que hommes. Mm-hmm. Dans le domaine du fitness. Alors peut-être c'est peut-être Instagram qui est intelligent et qui me pousse des femmes plutôt que des hommes. Va savoir, parce que quand j'ai vu le documentaire à regarder absolument sur Netflix là sur les médias sociaux, c'est juste flippant. Mais moi je milite pour avoir beaucoup plus de femmes. Tu vois même c'est une erreur sur mon podcast où je me bats en fait à essayer de trouver des femmes parce que je pense qu'il y a plein de femmes aussi qui font des choses extraordinaires et qui pourraient partager des choses. Il y a certaines femmes qui pour l'instant n'ont pas voulu ne serait-ce que peut-être qu'elles se sentent, c'est aussi, alors c'est difficile à dire parce que je suis pas une femme et ce serait peut-être l'occasion lors de ce type de rubrique d'avoir une femme et tout. Elles se sentent peut-être justement plus jugées que les hommes ou peut-être plus le syndrome de l'imposteur que nous, alors que une nouvelle fois, je pense qu'elles ont beaucoup, elles ont une sensibilité, surtout dans le coaching où tu parlais tout à l'heure de savoir-être ou autre. Et, c'est hyper important d'avoir, de connecter avec la personne qu'on a en face de soi. Et je pense que les femmes, elles ont cette sensibilité-là qui est, je pense, importante dans l'accompagnement, dans le rôle qu'elles doivent avoir par rapport à ça. Donc, je milite pour ceux qui écoutent le podcast ou qui vont écouter cet épisode de le partager aussi à de plus en plus de personnes. Il faudrait voir sur les écoles de formation. Moi, si je reviens à l'époque, je ne sais plus si on était, c'est 50-50, mais... c'est vrai que c'est sûr que je sais pas sur les 1000 coachs à Basic Fit combien. Enfin, si tu dis qu'il y en a pas beaucoup, c'est vrai que c'est quand je discute ou ne serait-ce que sur le Mastermind ou le Weekend Mastermind. Là, je t'avouerais qu'à Toulouse, il y a quand même 4 filles, je crois, 4-5 filles, je crois. Donc, ouais, je pense que ouais, c'est aussi à la société et aussi aux coachs masculins de leur dire qu'ils ont un sacré potentiel. J'aimais bien ton idée par rapport à, tu m'en as déjà parlé, sur ce que tu recherches toi dans les clubs. Tu recherches un coach homme, un coach femme pour avoir cet équilibre, parce que effectivement, un coach homme, il y a certains clients qui vont être attirés par le coach homme, mais il y a aussi toute une partie de la population qui sont attirés par une coach femme, qu'on soit un homme ou une femme en client. Et donc, je pense que la mixité, elle a toujours du, ça a toujours, je pense, le côté très positif. Pour parler, moi, du centre, si tu veux, aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé une coach femme. J'ai eu que des gars.
En 11 ans?
Mais ouais, pratiquement 12 ans. Alors, je l'ai eu en stagiaire, mais je n'ai jamais eu de coach. Et ça a toujours été des... Et on en discute avec certains membres et tout. Alors, c'est quand qu'il y a une femme et tout, parce que ça apporterait une autre diversité et tout. Mais je leur dis, je ne trouve pas. Ou entre guillemets, tu vois, j'ai jamais eu de réelle discussion, enfin, de CV ou de personne qui est venue ici. Et donc, ouais, je pense que ça manque parce que, bah oui, la vision aussi, la vision d'une femme, elle est, elle est hyper intéressante, tu vois, parce que bah, ils ont des sensibilités différentes des nôtres, et ils ont un regard aussi du business, et je pense que des idées sur moi, des choses où je suis pas forcément attaché, elles y accordent beaucoup plus d'importance. Et du coup, c'est clair que dans un business, enfin moi je le vois au centre. Bon, il y a autant d'hommes que de femmes, mais du coup, avoir une coach femme, ça permettrait aussi de voir peut-être quelles sont les choses que je peux mieux faire pour accompagner les femmes. Enfin, je pense que voilà, s'il y a des hommes et des femmes dans ce monde, je pense que les deux peuvent collaborer ensemble. Il y a des synergies à faire. Enfin, je sais pas ton avis là-dessus. Par contre, oui. Pourquoi il y a pas Pourquoi il n'y a pas trop de femmes coachs?
Et c'est vrai que moi, quand j'étais en SAPS, j'étais en entraînement sportif et en fitness. Donc, j'étais vraiment dans le case à Orléans pour être coach. Moi, je sais que je voulais être coach indépendant dès la fac. Je savais ce que je voulais être. C'est rare à la fac. Il y a beaucoup de gens qui continuent leur étude par défaut. Et dans ma classe, dans la promotion, il n'y avait que deux filles qui n'ont pas fini du tout coach au final. Et maintenant, ce que j'ai pu entendre, parce que mon Basifit est à côté de la fac encore, il a un client de la fac, donc il y a beaucoup de les jeunes de la fac qui viennent, etc. Donc, je peux parler avec eux. Et maintenant, apparemment, c'est 50-50 les classes d'entraînement sportif. Et oui, la moitié des... Bah, toutes les filles veulent être coach sportive. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu la suite, parce qu'elles sont encore en troisième année. Donc, voilà. Mais ça a l'air d'être en bonne voie. En tout cas. L'accompagnement après d'une femme en tant que entraîneur, personnel trainer, c'est autre chose, c'est totalement différent. Moi, je suis peut-être pas vieux jeu non plus, mais c'est vrai que les qualités de certains hommes ne sont pas toutes les mêmes qualités que les femmes, rien à voir. L'accompagnement est très différent. Au plus, du coup, encore beaucoup plus rassuré quand c'est une femme qui est dans l'équipe. Vraiment beaucoup rassurée, donner beaucoup de confiance. Bon, c'est un peu général, mais souvent, elles n'en ont pas. Donc, c'est compliqué d'aller vers les gens quand t'as pas confiance en toi. Parce que les gens, du coup, quand ils recherchent un coach, ils recherchent quelque chose dans le coach que les personnes n'ont pas. Donc souvent, voilà. Et aussi, le fait d'avoir une coach dans son équipe, c'est vrai qu'avoir une coach par club, bon, je pense que c'est faisable, c'est pas toujours facile. Mais le fait d'avoir une coach par club, en fait, ça ouvre une part de marché en fait, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il peut avoir 4 mecs, tu mets une fille, et c'est les 4 mecs, ils n'auraient jamais eu ces clients-là. Parce que une femme, rarement un homme seul va aller vers une femme. Ça n'existe quasiment pas. Des couples, oui, des femmes seules, oui, beaucoup. Mais un homme seul ne va pas aller vers une femme, après ça dépend comment elle est, etc. Mais pas pour les bonnes raisons. Là, j'ai pu observer ça. Souvent, c'est des femmes qui sont assez timides, réservées, introverties, ou avec un passif très compliqué avec les hommes. Bon, je ne vais pas aller plus loin, on va dire ça comme ça, mais un passif très douloureux avec les hommes, donc elle préfère prendre. Une femme pour sécuriser le tout et progresser, perdre du poids, redonner confiance, voilà, du pilates, du yoga, être mieux, tout simplement. Et c'est vrai que ça ouvre une autre part de marché. Et j'ai pu tester ça il n'y a pas longtemps. En janvier, j'ai recruté une coach, Florence. Je l'ai mis dans mon plus gros club à Orléans. Et en fait, elle a eu du mal à démarrer au début. Mais j'ai beaucoup été derrière elle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça finit par prendre au mois de mars. Et donc là, je suis assez content. Je suis très content parce que ce n'était pas forcément gagné. Puis en fait, ouais, dès que tout profil a été fait sur l'application Basifit, sur le site Basifit, elle a reçu genre 4-5 mails de prospects le jour d'après. C'est énorme, énormissime. Et là, chaque semaine, je sais pas combien elle a de prospects, mais elle doit en avoir sans aller vers les gens. Alors, ça fait ça à côté, elle fait un petit peu à côté, mais elle doit avoir au moins 2-3 prospects par semaine toutes les semaines de l'année. Dès qu'il y a une fille dans un club, ça explose la demande. Et ça, peu importe l'âge, peu importe le physique, peu importe la sensibilité, ça marche. Ça, c'est une certitude.
Bon, si vous nous écoutez là, femme coach ou même des directrices de club, moi, toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin dans le fitness et tout, si vous écoutez le podcast, manifestez-vous déjà. Félicitations. Et puis, moi, je serais heureux aussi de pouvoir. Vous interviewer parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des femmes également dans ce métier ou dans le fitness de manière générale, quoi. Ouais.
Non, carrément. Voilà, c'était un sujet épineux. Ouais.
Je rebondis aussi là-dessus et un truc qui va. Alors, quand j'ai dit que je n'avais pas de femme, j'ai oublié ma petite femme qui aujourd'hui travaille avec moi. Alors, elle n'est pas dans le domaine du coup du sport. Mais je fais le parallèle aussi à qu'est-ce qu'apporte aussi une femme dans l'accompagnement. C'est que je le vois bien avec nous, la synergie que l'on a par rapport à l'offre que l'on fait aujourd'hui avec Sophie. Ben, c'est clair que. Quand on accompagne une personne, du coup, ce client-là a la vision à la fois du professionnel homme et du professionnel femme, et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant.
C'est ça. Puis une femme qui prend une coach femme, le dialogue sera tout de suite. Il n'y aura pas besoin de briser la glace. Généralement, on va pouvoir parler de tout, les soucis de santé, les problèmes de filles, hein, je mets les guillemets, les choses. Voilà, ça sera beaucoup plus fluide.
Non, mais on peut imaginer, je fais le rapprochement avec Sophie, on peut imaginer, et ça se fait peut-être pas trop, mais on peut imaginer que deux coachs travaillent sur une même offre ensemble et qu'il y ait cette synergie justement, le fait que toi, Gary, tu as la spécificité de ça, et puis la femme a la spécificité, et en fait, vous créez justement une offre exceptionnelle grâce à vos deux talents et aux deux sexes du coup. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a il y a plein de trucs à expérimenter et à voir de ce côté-là.
C'est ça. Ben moi, j'ai un ami qui est coach. Il est en couple du coup depuis quelques années avec une autre coach. Et du coup, là, elle fait massage sportif plus coaching. Je sais plus trop quoi, pilates ou tout ce qui est postpartum. Et lui, il fait coaching à côté. Puis il y a une synergie qui se fait et ça a l'air de bien marcher, quoi. Et en plus de ça, ça donne l'image de putain, trop bien, quoi. Ils sont en couple, ça se passe super bien. En plus, ils font un truc ensemble. Oh, c'est trop bien. Ça va un peu du rêve, entre guillemets.
Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ça, votre point de vue.
D'ailleurs, la première chose que je me suis dit en te voyant, la première fois que je t'ai vu en immersion, c'est 21 en sortant, j'ai fait ah, putain, trop cool. Il a un business avec sa femme, quoi. Putain, trop. Je veux trop ça aussi. C'est la réflexion que je me suis fait en partant, tu vois.
Ça pourrait être une question.
Grave.
Bosser avec sa moitié, voilà. Ouais, ça pourrait être une bonne question.
Je pense c'est un épisode 2. Venez, parce que là, c'est une question qui peut vite mettre dans la sauce. Hein.
comment tu l'as senti, toi? Cet épisode-là, est-ce que...
Ah oui, précise quoi, qu'est-ce que j'ai senti, parce que ça peut être pris à confusion.
Ah oui, non, oui. Enfin, à la fin, il y a très peu de personnes qui vont arriver jusqu'à la fin, hein, il faut le savoir. C'est comme une formation, il y en a très très peu qui vont jusqu'à la fin des modules, il y a juste les plus motivés. J'aimais bien, je crois qu'il y avait un...
C'est ça, pour celles et ceux qui sont encore là, voilà, mettez cœur en commentaire, cœur avec les doigts. Alors on saura qui c'est les meilleurs, vous êtes les bêtes.
Exactement. dites-nous, je serais vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle version d'épisode. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on retente un épisode 2? J'aimerais bien voir votre retour par rapport à tout ça. Toi, tu l'as vécu comment?
Ah, pas bien, hein. C'est cheap, ouais. C'est fluide, j'aime beaucoup. Hein. Bon. D'habitude, quand je fais ce genre d'épisode, je me dis je suis nul, c'est pas terrible, etc. Après, je réécoute, je fais j'étais bien en fait. Là, j'espère pas que ça sera le contraire. J'espère que ça sera pas le contraire, mais là, c'était cool.
Bon. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on lance ça, on verra. Le meilleur moyen de savoir si ça peut être intéressant, c'est surtout vous hein, qui écoutez, si ça peut, ça vous intéresse, si vous attrapez aussi des informations, c'est aussi de vous distiller, de vous partager des informations intéressantes. Donc, dites-nous un petit peu en commentaire comment vous avez senti la chose. Et puis, il y aura peut-être effectivement. D'autres épisodes sur ce style-là. J'ai plein d'idées sur des rubriques un petit peu différentes ou autres. Vous reverrez Gary, ça c'est un petit teasing, mais vous reverrez Gary aussi sur un autre truc qu'on va faire ensemble. Je vous partagerai ça bientôt. En tout cas, merci à tous. Un petit 5 étoiles si sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je sais que c'est difficile de trouver, c'est assez contre-intuitif de mettre des 5 étoiles et des commentaires, mais si vous pouvez mettre ça, ça permet à l'algorithme de mettre un peu plus en avant. Mais le mieux pour que le podcast se fasse connaître, c'est tout simplement de de le partager à vos amis coachs ou aux personnes qui gravitent dans le fitness. Voilà, merci Gary de ton temps. Profitez bien, passez un bon week-end et puis on se retrouve du coup prochainement pour un nouvel épisode, un invité. Peut-être il faudra trouver aussi un nom à cette rubrique, Gary. Donc on verra tout ça. Allez, merci à tous et on se dit à bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.